Itinérance, une création radiophonique produite par l'Assemblée régionale des radios associatives en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Voie ferroviaire.
L'idée du chemin de fer, comme on peut l'imaginer, sont les Anglais qui ont tiré les premiers sur le chemin de fer en créant des transports pour le charbon. Déjà dans les mines, ensuite en extérieur. Et en France, il faut savoir qu'il y a une ordonnance de Charles X en 1830 qui a permis de créer la première ligne ferroviaire qui devait relier Lyon notamment. Lorsque l'on a vu transporter les personnes à l'époque qui ont vu circuler ces trains tractés par des chevaux au début, ensuite les premières machines à vapeur, ils se sont dit pourquoi ne pas aller s'asseoir sur le tas de charbon pour se faire transporter plutôt que de prendre une diligence et payer. Donc voilà la genèse du chemin de fer. Bien entendu, fort de cette histoire, les chemins de fer qui se sont structurés ont dit on va créer du transport voyageur. Je ne vous dis pas les conditions de transport et de voyage et la qualité du matériel, mais disons que des voyageurs commençaient à être transportés. Lorsqu'arrive le Second Empire, c'est le développement. C'est pas tout à fait l'apogée du chemin de fer, mais c'est un démarrage faramineux. Napoléon III était un fervent mécène du chemin de fer. Sachons quand même que les voyageurs étaient transportés de façon très confortable. Bon, il y avait trois classes, bien sûr, c'était en fonction des finances de chacun, et le confort était défini par les premières, deuxième, troisième classes. Il y a même eu une quatrième classe, mais ça, c'était sur le réseau d'Alsace-Lorraine. Alors, il faut savoir que c'est le vecteur de développement du pays, le chemin de fer. Je pense que aujourd'hui, personne ne pourra nier que c'est grâce au chemin de fer que le pays s'est développé. Il s'est développé non seulement économiquement, mais il s'est développé... Je vais vous citer une anecdote. Si aujourd'hui nous avons la même heure entre Strasbourg et Rennes, c'est grâce au chemin de fer. Il fallait harmoniser les horaires. Donc le chemin de fer, ça a été un vecteur économique, mais ça a été un vecteur humain également. Il faut savoir que c'était des grandes familles. Chaque compagnie s'identifiait et chaque compagnie avait une certaine émulation, et bon, il y avait un peu de concurrence, je dirais, morale entre les compagnies, on voulait être la meilleure. La compagnie du PO, Paris-Orléans, est une compagnie qui avait concession pour exploiter donc le chemin de fer, ceci au milieu du 19e siècle. Cette compagnie donc a disparu au moment de la création de la SNCF, c'est-à-dire le 1er janvier 1938. Pour information, cette compagnie s'était agrandie en 1934, en fusionnant avec la Compagnie du Midi au mois de juin 1934. Donc tout le sud de la France englobait donc sous l'appellation du PO, Paris-Orléans, toute cette géographie sud-ouest essentiellement. L'anecdote que je voudrais citer, c'est que le Midi, avant d'être phagocyté par la Compagnie d'Orléans, c'était le Bordeaux 7. le Bordeaux 7, 7 qui s'écrivait à l'époque CE2TE. Si on revient au département du Lot, bon, il faut savoir que cette compagnie avait concession sur Paris-Toulouse et que la première ligne Paris-Toulouse passait donc par Brive, Saint-Denis, Prémartel et rejoignait Cap-de-Nac, ainsi ramifié tant d'un côté sur Aurillac, à nouveau on pouvait remonter, on pouvait aller sur Rodez, Albi et rejoindre Toulouse par Tessonnière. Donc ça c'était le PO, lorsque dans notre région, dans notre département, on parlait du PO, c'était cette ligne. Paris-Toulouse actuelle date de 1891, donc c'est une ligne qui est plus récente que celle que nous avons vue ce matin, qui est de 1889. Sachez que cette partie-là, oui, est même un petit peu antérieure, puisque la partie Saint-Denis-Prémartel-Cap-de-Nac, vous avez aperçu le pont Eiffel qui a été inauguré en 1864. Donc cette ligne est antérieure à la nôtre. Ce qui est important, c'est de savoir que tout ce trafic convergeait sur Saint-Denis-Prémartel, qui était un nœud ferroviaire très très important, qui aujourd'hui, malheureusement, est devenu peau de chagrin. La ligne sur laquelle nous sommes, dite Bordeaux-Aurillac, cette ligne a été pensée dès 1862 par les deux côtés d'ailleurs. Et je voudrais, pour l'anecdote, vous dire que c'est le conseil municipal de Bergerac qui, dès 1862, avait évoqué l'idée de relier Bordeaux à Lyon par la vallée de la Dordogne. De l'autre côté, sur le côté Clermont-Ferrand, il y avait un personnage, le duc de Morny. Le duc de Morny, demi-frère de Napoléon III, député maire de Clermont-Ferrand, qui voulait, lui, désenclaver le Massif central. Donc l'idée, c'était de dire, du Massif central, nous allons amener tous les bois de chêne vers les régions de Bergerac et de Bordeaux pour la futaille. Et de l'autre côté, c'est de dire, on va ramener tout le sel de l'océan pour les charcuteries du Massif central. Donc ça, c'est l'idée de base, c'est la genèse un petit peu de la ligne. Après, un certain nombre d'événements ont fait que le tracé, les tracés définitifs et les déclarations d'utilité publique arrivent vers la fin du 19e siècle. Pour dire que la partie de la ligne sur laquelle nous sommes, disons que la construction, c'est 1880-1885, mais vu la configuration de la ligne, vous avez remarqué les nombreux viaducs, ce qui a nécessité d'allonger le temps de construction, puisque la partie où nous sommes, ici, en gare de Martel, inauguration 16 juin 1889. Une fois à Saint-Denis-Prémartel, le nœud ferroviaire, vous aviez en direction du Massif central, Aurillac, Viescan exactement, et de ce nœud ferroviaire, ben, vous pouviez atteindre donc les sites du Lioran, hein, les sites notamment dans les années 60 pour les amateurs de ski par exemple. Il faut savoir que cette ligne que l'on appelait Bordeaux-Aurillac aujourd'hui circule entre Bordeaux et Sarlat. Sarlat, la ligne s'interrompt de Sarlat à Souillac. Ensuite, la ligne est interrompue de Souillac à Saint-Denis-Prémartel, mais c'est nous qui avons pris la relève en tant que chemin de fer touristique. Et la ligne repart depuis Saint-Denis-Prémartel vers Aurillac et vers les autres directions, Toulouse, Brive, le Massif central. Une des plus grandes inventions de l'homme, c'est la roue. Donc elle a de l'avenir, à mon avis, sur les rails, elle a beaucoup d'avenir. Les rails peuvent diriger. Ailleurs, les roues, si elles ne sont pas dirigées, ça craint. Donc pour moi, l'avenir, il en a, et ma passion, elle en a. Bon, maintenant, sur le plan du rail lui-même et son avenir, Pour l'économie, c'est un produit qui est porteur d'avenir. Pourquoi ? Parce que nous sommes aujourd'hui dans un contexte de protection de la planète où le chemin de fer a toute sa place en termes de non-pollution. Si l'air de la vapeur a disparu, sinon qu'à des fins touristiques aujourd'hui, on se rend compte que tout ce qui est traction électrique, tout ce qui est traction à l'étude sera propre. Tous ces modes de traction seront propres, donc n'altéreront pas la planète. Il faut savoir que sur un chemin de fer, un train, vous mettez quand même 150 à 200 camions d'équivalent transport, ce qui allège la route en pollution, en circulation et surtout en sécurité. Donc voilà mon point de vue à ce niveau-là. Vers la fin du 19e siècle, Siemens a commencé à mettre au point des machines électriques, au départ sur accumulateur, ensuite avec prise extérieure. En région parisienne, les premières lignes de banlieue équipées de ce qu'on appelait des rames standards circulaient justement dans les années 1902-1903 avec l'électricité. Nous avons ici un engin électrique du début du XXe siècle qui était utilisé entre la gare d'Orsay et la gare d'Austerlitz sur la partie souterraine afin d'éviter d'enfumer les voyageurs. Ce système fonctionnait au départ avec une perche qui captait le courant et après des mini pantographes qui pouvaient donc capter le courant. C'était du 680 volts continu. Maintenant, pour l'avenir, vous savez qu'il y a de nombreuses expériences qui sont en cours. Puisque nous sommes en Occitanie, j'aimerais vous parler du projet qui est soutenu par la région sur le train à hydrogène. L'avenir des trains diesel est quand même compromis au profit d'un autre carburant qui pourrait être l'hydrogène avec un système de brûleur différent. L'Occitanie veut être pionnière dans le domaine. J'ai cru comprendre que la ligne Montrégeau-Luchon qui était arrêtée à la circulation pourrait, et je parle au conditionnel, pourrait devenir une zone test justement pour un chemin de fer construit par Alstom pour une combustion à l'hydrogène. L'expérimentation est en cours actuellement en Allemagne et ça se passe très bien.
Après notre voyage dans le temps avec le train à vapeur touristique du Haut-Quercy, partons dans la vallée du Lot pour une évocation de la voie ferrée Cahors-Mont-Saint-Prons-Libos.
À l'époque, le train, c'était vraiment le système, le moyen de transport le plus classique. Il faut dire que, par exemple, les jours de marché, et quand il y avait marché à Cahors ou marché à Fumel. Alors, dans un sens ou dans l'autre, on assistait à un transport de canards, d'oies et de choses comme ça. Les gens allaient au marché, puis ils revenaient du marché. Alors, il y avait ceux qui allaient vendre, puis il y avait ceux qui avaient acheté, qui revenaient avec la belle poule pondeuse pour mettre dans le poulailler, voilà. Et dans le train, on entendait « cut, 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 cut », on entendait les poules, mais c'est ça qui est drôle. Et c'était vraiment le moyen de transport des gens du pays. Ils n'allaient pas plus loin que la gare, avec leur voiture, leur vélo, ou bien les bêtes, quelquefois même. Ils se faisaient déposer à la gare aussi, mais ils prenaient le train. Tout le monde prenait le train pour aller un peu plus loin que devant chez eux. Et il y avait même des arrêts facultatifs. Ça, c'était quand même une spécialité originale de l'époque, alors je tiens à le signaler. C'est que quand on voulait s'arrêter à certains arrêts, qui étaient bien précis, il y avait d'ailleurs, une petite cahute pour marquer l'arrêt, et qu'on était dans le train d'omnibus, celui qui s'arrêtait partout, il suffisait de dire au contrôleur, avant de monter dans le train, au chauffeur de train, que l'on voulait s'arrêter à tel endroit précisément, là où il y avait un arrêt, hein. Le train s'arrêtait à ce moment-là pour, faire descendre la personne. Voilà. Donc on pouvait aussi demander un arrêt intermédiaire à l'époque. Bon, ça permettait à des gens qui bien souvent étaient à pied, parce que c'est ça aussi à l'époque, ou bien ils avaient laissé leur vélo à côté de l'arrêt pour rentrer à la maison, mais où ils étaient à pied, ils avaient encore à faire 500 mètres, 1 km à pied pour aller chez eux ou plus. Donc pour eux, s'arrêter une gare plus tôt ou une gare plus loin, c'était un calvaire. Il aurait fallu faire 4-5 km à pied, donc inutile. Autant s'arrêter au milieu, à l'endroit où il y avait l'arrêt prévu. Voilà. Donc il y avait même des arrêts comme ça, facultatifs. C'est comme ça que je l'ai connu, moi, la ligne de chemin de fer. Et je regrette quelque part, avec nostalgie, qu'elle ait été aussi démantelée et aussi qu'elle ait disparu complètement. Puis on la reverra plus, bien sûr. Quand ils l'ont démantelé, le pont de Puy-l'Évêque, le pont que tout le monde connaît maintenant à Puy-l'Évêque, à l'époque c'était un pont suspendu. C'était pas un pont comme ça. Mais comme il y avait besoin de faire passer des camions, bien sûr, de plus en plus lourds et de plus en plus gros, ils ont décidé de le transformer pour en faire un pont que le pont qu'on connaît actuellement. Ils avaient désaffecté la voie SNCF et pendant la durée des travaux, ils ont utilisé le pont style pont Eiffel, le pont ferraillé là en cage. Ils ont utilisé ce pont pour nous faire traverser le Lot à Puy-l'Évêque. Et il a remplacé le pont SNCF, a remplacé le pont suspendu pendant toute la période des travaux. Ce qui était amusant, c'est que, évidemment, ce pont étant pas adapté, il n'y avait pas de route goudronnée ou quoi que ce soit. Donc ils avaient récupéré les traverses de chemin de fer. Et ils les avaient mis côte à côte sur toute la traversée du pont. Et quand on roulait là-dessus, avec la voiture, c'était assez drôle, on avait l'impression de rouler sur un chemin de traverse. Là, on peut le dire, on était sur un chemin de traverse. Moi, je garderai quand même, je crois, tout le temps dans ma tête le bruit que faisait aussi le train quand il passait à travers justement ces ponts métalliques. Ça nous remplissait les oreilles. Quand il traversait un tunnel, où on entendait le bruit spécial du train dans le tunnel, mais toujours avec derrière ce bruit que font les bogies quand elles passent sur les jonctions des rails. Ça fait comme ça. Voilà. Et c'est moi, souvenir d'enfance. C'est comme ça que j'ai enregistré le train dans ma tête d'enfant.
Je suis le rail, là-bas il faut que je m'en aille. Le bruit des roues fer contre fer sur ces deux lignes parallèles, au loin, qui se resserrent. Tant de traverses, tant de barrières, je suis les arbres qui défient les pilonnés, les caténaires. Moi l'amoureux, le voyageur, dans ce train fou, file les heures. Sur la plateforme de la gare, pour un baiser, pour un regard, elle court, m'appelle encore. Je me suis trompé d'aiguillage, gare inconnue, gare de triage, tour de Cahors, Cahors, Cahors. Le long des quais, les passagers attendent que j'ouvre mes portes. C'est leur histoire que j'emporte, c'est leur amour que je rapporte.
Nous sommes ici sur le JR65, appelé aussi Via Pontesis, un des chemins qui mène à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il traverse toute notre région, l'Aubrac, l'Aveyron, le Lot et continue vers le Tarn-et-Garonne. Nous sommes ici sur la portion de Figeac à Fécelles qui rejoint ensuite Gréalou. Ce chemin, très fréquenté aujourd'hui, n'est pas le seul à desservir notre région. Déjà au 1er siècle de notre ère, l'antique voie romaine, la Via Decima Tertia Caesaris, qui reliait Narbonne à Limoges, passait par Rodez, Pérus, Capdenac et tout près de Figeac. Au XIXe siècle, sur l'emplacement de la voie romaine, c'est le Camigrand qui traversait la région d'ouest en est, d'Asprières à Figeac. Jusqu'au début du XXe siècle, une majorité de marchandises était transportée par bateau sur la rivière du Lot, tout proche. Des chemins, des rivières, des routes, mais aussi des voies ferrées permettaient les déplacements, les communications et le commerce dans notre pays. Celle que nous longeons ici relie Capdenac à Brive en passant par Figeac et plus largement permet d'aller de Rodez à Paris. Après la création en 1853 des lignes de chemin de fer de Montauban vers Capdenac et Rodez, puis la construction du pont sur le Lot, c'est le 10 novembre 1862 que cette voie ferrée a été ouverte entre Capdenac et Brive. L'essor du chemin de fer a été étroitement lié à l'abandon de la navigation sur le Lot. D'ailleurs, à partir de 1886, Capdenac, à quelques kilomètres de Figeac, s'est trouvé au centre d'une étoile ferroviaire à 5 branches, vers Brive, Cahors, Aurillac, Rodez et Toulouse. Au début du XXe siècle, plus de 50 trains circulaient chaque jour sur l'étoile ferroviaire, 500 km de voies ferrées ouvertes au trafic voyageurs et marchandises parcouraient notre région et on décomptait plus de 1500 cheminots sur le secteur géographique de Capdenac-Figeac. Il en reste environ 130 en 2019. Le chemin de fer entre les mains de la compagnie du Paris-Orléans en 1856, puis de la SNCF à partir de 1937, a fortement contribué au développement économique de notre région et a structuré la vie quotidienne des populations. Lors de la dernière guerre mondiale, le rail a subi de nombreux sabotages de la résistance pour empêcher la circulation des trains ennemis, parfois avec l'aide des cheminots, mais ces derniers l'ont toujours remis en état pour assurer la pérennité. Ils ont d'ailleurs payé un lourd tribut pour défendre le pays et ses voies ferrées. Il suffit de voir les stèles et plaques commémoratives dans les gares proches. Depuis 1920 jusqu'à nos jours, de puissantes grèves des cheminots se sont déroulées dans le but de préserver le service public ferroviaire. Elles ont marqué l'histoire et se sont parfois terminées par des répressions sanglantes de certains gouvernements, mais le plus souvent par des victoires. Les attaques contre le rail et le service public ferroviaire se sont multipliées depuis quelques années avec les décisions de fermeture de lignes, de gares et le transfert sur les routes de nombreux transports de voyageurs et de marchandises, contre toute logique de sécurité et de préservation de l'environnement. Néanmoins, dans le but de pérenniser les infrastructures ferroviaires, le Conseil régional Midi-Pyrénées a été, à partir de 2010, à l'initiative de la réhabilitation et de la modernisation des lignes SNCF de Capdenac vers Toulouse, Rodez et Brive. Depuis, celui de la gare de Capdenac en 1921, des incendies ont endommagé ou détruit de nombreux bâtiments du chemin de fer. Chaque fois, ils ont été reconstruits. Continuons, avançons, résistons, et tant que nous cheminerons ensemble, il y aura de l'espoir.
Dans le Lot, il existe une voie ferrée qui, bien que n'étant plus en activité, fait encore couler beaucoup d'encre. La ligne Cahors-Capdenac.
La SNCF a été le premier transporteur routier d'Europe, même. Moi, personnellement, la SNCF n'a pas joué le jeu dans les années 74. C'était à l'époque du choc pétrolier. C'était là qu'il fallait. C'était à l'époque où la SNCF était au plus haut niveau. Donc, à un moment donné, il fallait évoluer avec son temps aussi. C'est-à-dire que moi, on aurait aménagé les gares fret dans certaines gares en apportant du matériel moderne pour pouvoir travailler avec, pour pouvoir décharger les wagons, charger les wagons. Moi, j'ai l'exemple avec les wagons des bâches vite, enfin, les wagons des bâches vite ou les grands wagons. Palettisé, il suffisait d'avoir de mettre des transpalettes dans ces gares, déjà ça aurait apporté un plus et ça aurait permis de garder certains chargeurs. Parce que les chargeurs, moi j'en connais beaucoup, qui étaient pour le faire. Mais ce qu'il y a, c'est que moi particulièrement, Sur De Cazeville, on avait réussi à avoir une plateforme ferroviaire, mais la SNCF n'a rien fait pour l'améliorer, cette plateforme. Et en plus, la politique tarifaire, ceux qui recevaient de l'engrais, bon, les trains complets font 22 wagons. Le train complet, 22 wagons. Mais ce qui a pris la SNCF avait fait des rapilèges, qu'on appelle. Et les rapilèges, c'était des trains de 12 wagons, qui correspondaient à la demande, justement, de ces chargeurs.
Depuis les années 90, il y a eu 4 plans fret. Ils ont tous échoué. On voit aujourd'hui la part modale transportée par la SNCF, par le fer, elle est réduite à 10% du marché. Quand on est tombé au plus bas, alors qu'avant c'était pratiquement du 50%.
Dans les années 70, c'était du 70%.
Oui. Même dans les années 70, c'était au-delà, oui.
Il y avait deux choses, c'est-à-dire que c'est une ligne qui peut quand même porter une certaine charge, puisque le profil de la ligne et la voie peuvent porter jusqu'à 2000, enfin les trains pour avoir des trains de 2000 tonnes.
Ce qui correspond à peu près à 60 camions actuellement.
Et les trains de minerai qui venaient de. Enfin, minerai et blende, puisque Vivier c'était de la blende. Et les trains de minerai, ils arrivaient de Bassens et Port-de-Boux. Mais tous les trains, si vous voulez, passaient par la ligne de Cahors. Parce que par rapport au tonnage aussi. Donc qu'est-ce qui circulait ? Il circulait des trains complets chargés, et le soir, ils repartaient, les rames vides repartaient sur... alors il y avait 7, Port-de-Boux, Bassens à Bordeaux, voilà. Ça demandait... et c'était toutes les semaines, tous les deux jours, il y avait un train. Hein. Et c'était des trains de 1800 à 2000 tonnes. Donc, au début, c'était 1800 tonnes, parce que c'était 20 tonnes à l'essieu, et après, c'est passé à 22 tonnes 5 à l'essieu. Le plus gros, le Bassin, mais après il y avait Rodez aussi. Hein. Rodez qui avait les trains d'engrais, les trains de
carburant,
le céréales.
Carburant, RAGT.
Ouais, RAGT. Qui arrivait, qui portait du tourteau, qui portait toute l'alimentation animale. L'alimentation animale, les engrais et tout ça. C'était des trains complets en plus aussi. Toutes les gares, il y avait des trains de lotissement aussi. Hein. C'est des wagons qu'on distribuait. Mais qu'il fallait avoir un triage pour pouvoir après refaire les lots, pour pouvoir faire des trains. Le problème de la SNC, enfin, du ferroviaire, c'est ce maillage. Pourquoi aujourd'hui on est comme ça? C'est parce qu'on a complètement éliminé ce maillage. C'est-à-dire que maintenant, moi le ferroviaire, on parle toujours du point A au point B. Avant, un train de voyageurs, il y avait le grand train de la grande ligne, et après, les trains omnibus et tout ça, se retomber sur la gare de passage et drainer les voyageurs pour qu'ils étaient en correspondance pour le train de grande ligne. On dit toujours que les terres aujourd'hui ne sont pas assez chargées. Ou ça. Pourquoi ? Parce qu'on a supprimé ça. On a supprimé ce maillage entre les trains omnibus, qu'on appelait omnibus maintenant, c'est les trains régionaux, avec les trains de grande ligne. Et ça, on parle toujours point A, point B. Et après, c'est la politique SNCF. Hein. La politique SNCF du fret, la SNCF n'en veut plus. Les usines ont fermé en 1987, en mars 87, et la ligne de Cahors a été déclassée en 1989. Enfin, le trafic s'est arrêté en 88, et après ça a été déclassé en 1989. Parce qu'à l'époque, ce qu'il faut dire qu'à la SNCF, moi c'est personnel, alors c'est un truc, c'est qu'on a supprimé tout ce qui était rentable au début. Alors, le colis express était le plus rentable. Parce que le colis express, moi j'ai parlé toujours avec les garagistes à Figeac. Un jour il m'a dit, maintenant il nous faut 4 ou 5 jours pour avoir une pièce auto. Avant, le gars est tombé en panne la veille à 3h de l'après-midi. Et le garagiste téléphonait à Paris pour la pièce donnée. Et à Paris, il mettait la pièce dans le train de nuit, le matin à 5h. Le garagiste, il avait la pièce et dans la matinée, il réparait. Et tout ça, c'était rentable, les bagages. Alors, ils ont commencé à éliminer ça, les colis express, les bagages et tout ça. Donc, en éliminant les bagages, ils ont éliminé les voyageurs. Enfin, surtout les voyageurs, pas les voyageurs grande ligne, ceux qui font point A, point B, ils n'ont pas besoin de mettre le bagage au train. Mais ceux qui font les dessertes, comme on dit, là, entre les terres et les, et les grandes lignes. Souvent, il était en hauteur, le bagage partait, il était mis dans le wagon de train de grande ligne et il arrivait à Paris. Avant, la SNCF, c'était une seule entreprise. Donc, alors effectivement, dans les années où le fret marchait à fond, c'était le fret qui compensait parce que le service public, on ne fait pas... En général, quand on fait du service public, on ne fait pas, pas être rentable. Donc, ce qu'il faisait, c'est ça compensait au niveau...
Ouais.
Pour le transport voyageur.
La péréquation. Ouais.
La tarification du transport voyageur.
Ouais.
Il y a une étude qui a été faite par un cabinet indépendant, qui date de 5 ans maintenant, où il a été projeté, où il a été étudié, où ça a été évalué à 2000 voyages quotidiens par jour, en moyenne sur l'année, ce qui représente l'équivalent de 1200 voitures particulières en moins par jour, 20 000 touristes acheminés par train. Vous voyez, ça représente 6500 voitures en moins dans la vallée du Lot pendant la saison estivale. Et au niveau fret, il a été estimé 250 000 tonnes de fret qui pourraient être acheminées par cette ligne, comme on disait, cette ligne à fort tonnage, hein, où on tractait environ entre 1800 et 2000 tonnes. C'est l'équivalent de 61 trains représente 60 camions. Et sur l'année, ça ferait environ 8000 camions en moins sur le secteur. Donc nous, on dit que cette ligne a toute sa... Pour avoir toute son utilité, s'il y avait une vraie volonté politique, si nos élus, je pense que... Il y a quelque chose à faire pour la réhabilitation de cette ligne. Parce que nous, on n'est pas jusqu'au boutiste contre les voies vertes, hein, bien au contraire. Mais il y a une voie verte qui pourrait se faire parallèlement à la voie ferrée. De Cahors à Cabdenac, il y a 70 km. Avec des trains, avec un train, ça fait à peu près un train à évaluer à 60-80 km/h. Il faudrait une heure pour faire Cahors à Cabdenac. Donc il y a quand même un enjeu important pour cette ligne, hein, sachant que pour rejoindre Cahors à Figeac, hein, où c'est en bus, il faut pas loin de 2 heures.
Moi, je me rappelle les trains de Valouret qui allaient, la plupart, ça allait à Zeebrugge ou à Rotterdam. C'était des trains internationaux. Et donc, ils passaient par Cahors. Et ça remontait, c'était Puymaire. Après, ça passait Puymaire. Après, ça montait sur. Ça traversait. Après, ça allait directement à Rotterdam, en vrai. On n'a pas parlé d'aménagement du territoire. Mais l'aménagement du territoire, c'est la clé principale de ces transports de masse. Parce que sinon, à quoi ressembleront nos régions si on n'a pas ces transports Alors on peut toujours dire, j'ai vu passer l'autorail, il n'y avait personne dedans. C'est pas ça. L'autorail, c'est sûr qu'à l'origine, il va partir avec 5 voyageurs. Mais quand il arrive à Toulouse, il est archi plein. Il y a ça, plus le maillage, plus... dans les années 75, le PR, c'est-à-dire le Figeac-Toulouse, il mettait 2 heures. Parce que si on met 1h50 par rapport à la voiture, on est concurrent. Après, on est concurrentiel.
Oui, d'autant plus que le plan rail en 2010, c'est... C'est toute la région Midi-Pyrénées pratiquement qui a été refait à neuf, des rails tout neufs. Le problème, le hic, c'est que les voies ont été refaites, mais la vitesse n'a pas été augmentée. Bon, on est pour ou contre la modernisation sans personnel, mais on n'a pas modernisé les systèmes pour faire croiser des trains, ou on n'a pas modifié certaines courbes. Donc, on a renouvelé les rails, mais on n'a pas modifié l'infrastructure.
RER numéro 870158 en provenance de Rodez et à destination de Brive-la-Gaillarde, départ 15h25, va entrer en gare voie 3. Il dessert Figeac, Assier, Gramat, Rocamadour-Padirac, Saint-Denis-Prémartel et les 4 routes. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît.
Je vais vous raconter la vie du cheminot, en l'occurrence la mienne. Pour commencer, j'ai été chef de gare dans deux gares, Brocamadour-Padirac de 1986 à 1998 et la gare d'Acier de 1998 à 2018. Alors qu'est-ce que c'est qu'un chef de gare aujourd'hui ? La notion de chef de gare a été supprimée du langage de la SNCF. Mais pour le commun des mortels, le chef de gare, c'est encore un rôle à jouer. Un chef de gare, ben, il assure la circulation des trains, il vend des billets, il renseigne les voyageurs, il rassure les voyageurs, il répond au téléphone, il veille à l'entretien de la gare. Enfin, c'est quelqu'un de polyvalent, quelqu'un de permanent qui veille sur sa gare. La gare de Rocamadour, deuxième site de France le plus fréquenté, je rappelle, après le Mont-Saint-Michel, très touristique, pendant la période estivale, a été certifié gare, train plus vélo. Pendant 12 ans, j'ai fait la location de bicyclettes en plus des activités courantes de la gare. Et j'ai vu toutes les nationalités du monde défiler. J'ai habité au-dessus de la gare, donc au premier étage. Et j'étais quand même au travail, on va dire, 24 heures sur 24. Je faisais du service public continu. Les gens venaient frapper à ma porte pour rendre le vélo ou pour savoir l'heure du train, le train de nuit, quand est-ce qu'il passait. J'ai même ouvert la gare le soir de grand froid l'hiver. J'ai ouvert la salle d'attente à de nombreux voyageurs. C'était le service public continu, 24 heures sur 24. Ensuite, j'ai été muté à la gare d'Acier, à 18 km d'ici. Et là, point de vélo. Mais une autre grande bataille qui s'annonçait dès 2001 pour conserver la gare et les postes de cheminots. En 2002, on s'organise en association suivant le triptyque usagers, cheminots et élus. En 2003, les habitants d'Acier occupent la gare d'Acier le temps d'un week-end. La SNCF doit affréter des autocars pour permettre aux voyageurs de terminer leur trajet. En 2007, c'est le président de l'association qui se lance dans une grève de la faim d'une semaine pour la défense du service public. A noter, c'était le premier usager de France à faire grève de la faim pour défendre un service public. Les actions citoyennes de l'association, conjuguées à l'assiduité et à la résistance des agents de la gare, ont permis de préserver les services et de sauver en quelque sorte cette ligne Rodez-Brive-Paris. Ce qui a permis de la non-installation de distributeurs automatiques de billets, qui constituait encore une dégradation des services à l'encontre des usagers. Les gares d'Acier, de Gramat et de Rocamadour n'ont toujours pas de distributeurs automatiques de billets à l'heure actuelle. La gare d'Acier est toujours ouverte, avec un guichet ouvert du lundi au vendredi. Enfin, début octobre 2018, alors que 8 autres trains de nuit directs ont été supprimés, la Convention des trains d'équilibre du territoire a permis, après de longues batailles, de maintenir ce train de nuit Rodez-Paris, aller-retour, qui passe par les gares, bien sûr, de Figeac, Acier, Gramat et Rocamadour-Padirac. Les voitures sont un peu obsolètes, puisqu'elles ont 40 ans d'âge. Mais le ministre nous a promis que les voitures allaient être renouvelées. On y croit toujours et on ne lâchera pas le morceau. Thank you.
Un an après le terrible incendie qui a ravagé la gare de Figeac le 22 novembre 2018, le trafic a repris sur la ligne Rodez-Brive et Figeac-Aurillac. En revanche, la gare de Figeac n'est toujours pas reconstruite.
Le 22 novembre 2018, la gare brûle. Nous avons passé malheureusement la date anniversaire et pas beaucoup de choses sont aujourd'hui venues sur la table. Les murs, ils appartiennent à SNCF et de fait, s'ils devaient reconstruire eux-mêmes la gare, in fine, ça serait malgré tout la région qui devrait payer. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé de pouvoir assumer la maîtrise d'ouvrage de manière à ce qu'on puisse avant tout aller plus vite, parce que notre principale ambition, c'est dès lors que le projet sera défini, dès lors que tout ce qui concerne le rachat de cet équipement aura été traité, nous puissions démarrer les travaux d'ici la fin de l'année 2020. Le bâtiment n'était pas classé, mais la façade était classée. J'espère en tous les cas qu'on pourra garder la gare telle qu'elle était. Pour ma part, je suis très attaché à l'aspect historique et patrimonial de cette gare, puisque nous sommes aujourd'hui pays d'arrêt d'histoire. Cette gare a le mérite d'exister, elle a une façade qui était tout à fait atypique, donc on espère bien pouvoir la conserver. Après, apporter peut-être un brin de modernité sur la construction en arrière, mais la façade, on va tout faire pour la conserver. Donc si jamais nous pouvions commencer les travaux d'ici la fin de l'année 2020, ça voudrait dire que nous pourrions l'inaugurer dans les 18 mois qui suivent, à savoir mi-2022. Mais on savait que ça allait prendre du temps et on fait tout pour que ce temps soit le plus réduit possible.
Ce voyage en train au travers du temps et du Lot vous a été offert par Antenne Doc. Une production de l'Assemblée régionale des radios associatives en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Pour les témoignages et les voix, nous remercions Jean-Paul Coiffé, Jean-François Chaval, Yves et Jacques Les Cheminots, Vincent Labarthe, Frédéric Valentin, Armel Vautrin, Sandrine Dered et Loïc Gué. Pour les créations musicales, nous remercions Jérôme Chaumier et Joachim du groupe Swing Léon, ainsi que le multi-instrumentiste Kibongo.
Mesdames, messieurs, notre TER arrive en gare de Toulouse, Matavieux. Terminus du train, assurez-vous de ne rien oublier. Nous espérons que vous avez effectué un agréable voyage et vous souhaitons une bonne fin de journée.